Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est reparti pour Contre-Histoire. Un phénomène qui commence à devenir un thème de réflexion historique, et puis même s'il n'était pas rentré dans l'histoire, selon l'expression consacrée, j'en parlerai quand même parce que ça me passionne, voilà. C'est la question de la gratuité ou la question du revenu universel. Alors, je dis que c'est carrément rentré dans l'histoire, puisque ça fait une bonne vingtaine d'années, une solide vingtaine d'années, que, en particulier, André Gorz a commencé à mettre la table à ce sujet. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai trouvé, cette semaine, dans le dernier Diplo, j'ai trouvé un article de Paul Ariès, qui est... un écolo breveté et un démocrate breveté aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, du Sarcophage. Sarcophage était un petit journal, un petit mensuel, je crois, que Paul Ariès avait créé. Et bien sûr, Sarcophage, ça s'écrivait avec un K. Et je me suis bien amusée à dévorer les Sarcophages tous les mois. Faudra que je vous fasse un bilan de ces sarcophages pour s'amuser. Alors, aujourd'hui, on ne s'amuse pas, on étudie la gratuité, le revenu universel et même la notion de travail. Voilà. Alors, pour se faire, non pas les dents, mais pour se vitaminer, eh ben, on va se faire une petite pause musicale de départ. Et puis comme ça, tout le monde sera en forme, moi y compris, et on pourra réfléchir ensemble à cette question capitale, sinon capitaliste. Alors, nous voilà donc face au choix de la gratuité ou du revenu universel que nous propose donc Paul Ariès. Enfin, c'est le choix qu'il nous propose. Alors, je vais donc vous lire cet article de Paul Ariès, extrait donc du diplôme de novembre. Et puis après, je vous ajouterai mon grain de sel perso. Et puis, on abordera, simplement aborder, parce qu'on n'aura pas le temps, la question du travail, tout simplement. Voilà. Alors, que nous dit Paul Ariès? Eh bien, le projet de revenu universel suscite l'enthousiasme de certains, dans leur immense majorité, animés par un souci d'équité et de générosité. Mais leur ambition repose-t-elle sur des fondations solides, dès lors qu'une crise du travail suggère qu'une partie de plus en plus importante de la population ne trouvera plus à s'employer? Ils ne voudraient pas mieux réfléchir sur une autre crise, celle de la marchandisation. Le capitalisme, dont la vocation consiste à transformer le monde en marchandises, ne peut poursuivre ce processus sans menacer l'humanité d'un effondrement à la fois financier, social, politique et écologique. Prendre acte de cette situation conduit à prôner un autre type de revenu d'existence, démonétarisé. En d'autres termes, la gratuité, dont il s'agirait de promouvoir l'extension, car elle n'a jamais totalement disparu. C'est bien un sujet d'histoire. M'aide à définir Paul Ariès. Revenu universel ou gratuité? Ainsi se résume le dilemme. Vaut-il mieux donner de l'argent aux citoyens ou leur fournir des services gratuits? Alors, on va d'abord voir quel est le coût de l'un et de l'une et de l'autre des solutions. On peut identifier trois éléments de réponse. En 2017, l'Université College de Londres a comparé le coût d'un revenu universel de base à celui d'une mise en œuvre de la gratuité pour les services universels élémentaires, à savoir logement, nourriture, santé, enseignement, transport, services informatiques, etc. Ceci au Royaume-Uni. Alors, c'est le travail de Jonathan Portz, Howard Reed et Andrew Percy, Universal Basic Services, Social Prosperity Network, Institute for Global Prosperity. La gratuité coûterait 42 milliards de livres sterling, environ 48 milliards d'euros, contre 250 milliards pour le revenu universel, c'est-à-dire 284 milliards d'euros. Hein, c'est... D'un côté, l'équivalent de 2,2% du produit intérieur brut britannique, de l'autre, 13%. Ah oui. Des résultats similaires s'observeraient en France, suggérant un premier constat. La gratuité semble a priori plus réaliste économiquement que le revenu universel. Eh oui, ben c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Outre son coût, le revenu universel présente un écueil. La perspective de maintenir, voire d'étendre, le mécanisme de mise en équivalence de tous les aspects de la vie avec une certaine somme d'argent. C'est-à-dire proposer de rémunérer les parents pour l'éducation des enfants, les étudiants pour leur lecture ou les paysans pour les services qu'ils rendent à l'environnement. Ne participe-t-il pas finalement à l'approfondissement de la logique de marchandisation? Oui, s'occuper d'un enfant malade ou en bonne santé, ça vaut combien? Hein, faire la tambouille, ça vaut combien? Faire la vaisselle, ça vaut combien? Aider des enfants à faire leurs devoirs, etc., etc. Ben oui, on vit là-dedans. Hein. Alors, ce sera peut-être intéressant de prendre le problème dans l'autre sens. Même les meilleurs projets de revenus universels ne parcourent que la moitié du chemin. D'une part, rien ne garantit que les sommes allouées soient utilisées pour des produits à valeur écologique, sociale, démocratique. De l'autre, le dispositif maintient la société dans une logique de définition individuelle des besoins, c'est-à-dire d'une société de consommation. Économique d'abord, si l'école publique est gratuite, c'est que l'impôt la finance. La gratuité libère le service du prix, mais pas du coût. Culturel ensuite, il ne s'agit pas de promettre une liberté sauvage d'accès aux biens et aux services, mais de l'adosser à des règles, évidemment. Évidemment. Alors, la première règle serait la gratuité ne se limite pas aux biens et services qui permettent à chacun de survivre, comme l'eau ou le minimum alimentaire. Elle s'étend à tous les domaines de l'existence, tels que le droit aux parcs et jardins publics, à des terrains de jeu, l'embellissement des villes, la santé, le logement, la culture, la participation politique. L'enjeu est bien de multiplier des îlots de gratuité dans l'espoir qu'ils forment demain des archipels et après-demain des continents. Deuxième règle. Si tout a vocation à devenir gratuit, ça doit conduire à certaines hausses de prix. Ah bon ? Paradoxe. Mais non. La gratuité avance main dans la main avec la sobriété. Un exemple, la gratuité d'un bien tel que l'eau répond non seulement à une préoccupation sociale, mais également à l'urgence écologique, en invitant par exemple à construire des réseaux de distribution d'eau plus petits, afin de réduire les pertes qui sont estimées à un tiers, estime-t-on. Ou en entravant le principe du système marchand selon lequel l'eau ne sert qu'une seule fois. Oui, on peut récupérer des eaux pas trop usées, mais sur le plan domestique, c'est très facile à faire. Hein. Chaque fois que vous vous lavez les mains, il y passe au moins un litre ou un litre et demi d'eau. Si vous laissez cette eau dans une bassine, dans l'évier ou dans le lavabo, eh bien, vous la récupérez, vous l'utilisez ensuite dans les toilettes et vous verrez que votre facture d'eau va être divisée au moins par deux. Bon, ça, c'est un petit truc d'écolo basique. Voilà. Mais on commence à en parler de cette astuce. La gratuité d'un bien donc tel que l'eau répond non seulement à une préoccupation sociale, mais à l'urgence écologique. On va partager une nouvelle qui est un petit peu surprenante, mais le principe, on vient d'en parler, vous allez voir les usages et les applications diverses que cela peut engendrer. Le recyclage des eaux grises issues des usages domestiques en vue de la consommation reste interdit en France pour des motifs sanitaires. Il se développe pourtant dans d'autres pays, aux États-Unis, au Japon, en Australie, où on ne tombe pas plus souvent malade que dans l'Hexagone. Mais imagine-t-on que l'on puisse payer son eau un même prix pour boire ou pour remplir sa piscine? Ah. Il n'existe pas de définition scientifique et encore moins moraliste de ce qui serait le bon ou le mauvais usage des biens communs. Il reviendra donc aux citoyens, c'est-à-dire au processus politique, de définir ce qui doit être gratuit, renchéri, voire interdit. Loin d'engendrer le gaspillage, comme le clame la fable de la tragédie des biens communs de Gareth Hardin, la gratuité contribue à responsabiliser les ponctions réalisées sur l'environnement. Et oui.
Una noche triste. Cuando no me quieras, si cerré los ojos y me iré a bogar por los mares negros que tiene la muerte, que tiene la muerte para nunca más. Pediré entonces más amado para que mis ojos se den a llorar silenciosamente. verra nunca más.
Troisième règle. Le passage à la gratuité suppose de transformer les produits et services préexistants. Dans la restauration scolaire, par exemple, ça doit permettre de cheminer vers une alimentation locale, respectant les saisons, moins gourmande en eau, sans doute moins carnée, faite sur place. Les médiathèques attireraient de nouveaux lecteurs, mais en modifiant les comportements, avec beaucoup moins d'emprunts par carte, puisqu'on sortirait de la logique de la consommation, dans laquelle chacun en veut pour son argent, et emprunte au maximum, quitte à ne pas lire chez soi ce qu'il aura emprunté. Ça arrive souvent. Des services funéraires gratuits, déjà autorisés par la loi, peuvent offrir l'occasion d'instaurer une cérémonie républicaine ou de légaliser l'humusation ou la promession. Alors, on découvre ensemble de quoi il s'agit. L'humusation, on peut deviner, hein, ça vient de l'humus, c'est-à-dire poussière, on retourne à la poussière, donc choisir de faire transformer les corps en humus. Voilà. La promession, ben, c'est quelque chose de beaucoup moins poétique, c'est la dissolution des corps dans l'azote liquide. Vous savez, version Bedmarka ou Lumumba. Personnellement, je ne sais pas ce que je choisirais, mais bon. Dans tous les cas, mettre en place des politiques d'accompagnement social et psychologique des familles. Vous voyez que ça touche à tous les domaines. L'exemple des villes, laboratoire de gratuité des transports en commun urbains et périurbains, prouve qu'on se tromperait en se contentant de supprimer les billets, la billetterie. Il s'agit également et surtout de faire évoluer le service, d'opérer des choix de technologie et d'infrastructure. Ce choix ne concerne pas que des villes petites et moyennes, mais des métropoles comme Tallinn, la capitale estonienne, ou, à certaines heures, la ville chinoise de Chengdu, forte de 14 millions d'habitants. En Île-de-France, le rapport, commandé par la présidente de la région, Valérie Pécresse, reconnaît que la gratuité ne poserait pas un problème de financement, mais un risque de saturation du réseau, ce qui est bien la preuve que le système marchand ne satisfait pas le droit à la ville, à la circulation dans la ville. Puisque si c'est gratuit, les gens circuleront beaucoup plus, ça veut dire qu'ils ont besoin ou qu'ils ont envie de circuler, mais que le coût du billet de transport ne le leur permet pas. Voilà. C'est pourquoi ce même rapport fait le choix de l'impossible voiture propre. Valérie Pécresse qui propose, qui suggère et qui argumente ce projet, ça n'est pas très très étonnant. Dans aucun des domaines concernés, la gratuité n'induit une baisse de la qualité du service, contrairement à la rumeur entretenue selon laquelle il faudrait choisir entre gratuité et qualité. L'expérience le démontre, elle ne contribue ni à l'essor des incivilités, ni à une recrudescence des dégradations. Au contraire. Pourquoi ? Ces dégradations sont souvent l'expression du refus du capitalisme, dans la mesure où on peut imaginer que certaines infrastructures sont l'illustration du capitalisme. Bon, ça, c'est une réflexion à courte vue, bien entendu, mais on peut comprendre que des gens démunis, en considérant le coût évident des grosses structures, se disent « ben voilà, tout ça, ça coûte des fortunes et moi, j'ai rien dans mes poches, quoi ». Et ça, on comprend que ça puisse générer des révoltes et donc des incivilités et des dégradations. Certains estiment pourtant que seule la marchandisation permettrait de protéger les ressources naturelles. Plus le pétrole deviendrait rare, par exemple, plus son prix augmenterait, conduisant à en limiter l'usage. Mon œil. Ils dénoncent donc la gratuité comme l'organisation du gaspillage. Mais rien n'est plus faux. Prenons le cas de l'énergie. Il ne s'agit pas de rendre toute l'énergie gratuite, ni même d'atteindre le maximum de nos capacités de production. Chacun sait, désormais, que la survie de l'humanité impose de laisser sous terre une bonne partie du pétrole disponible, puisque son utilisation aggraverait le réchauffement climatique. Imaginez la gratuité d'énergie requiert d'élaborer une transition rapide et douce entre un mode de vie énergivore et un mode de vie sobre. Une telle politique se marie parfaitement avec le scénario Negawatt, hein, l'association écologique qui refuse le nucléaire et qui a comme... Et dont un des slogans est que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais ce sont des gens très sérieux. Hein. Cherchez Negawatt sur votre moteur de recherche favori et vous passerez un bon moment et vous apprendrez des choses formidables. On reviendra sur Negawatt. Oui, on y reviendra. Je pense que probablement, on a déjà eu des émissions à ce sujet dans le magazine, hein, des réflexions à ce sujet. Fondée sur une réduction à la source des besoins en énergie en partant des divers types d'usages. Voilà. Le 1er octobre 2018, l'appel « Vers une civilisation de la gratuité » lancé autour du livre manifeste « Gratuité versus capitalisme » a reçu le soutien d'un grand nombre de personnalités et d'organisations politiques de gauche et écologistes. Il oppose ce qui relève d'une gratuité d'accompagnement du système, c'est-à-dire celle des tarifs sociaux destinés à ceux qui sont tombés, qui ne va jamais sans condescendance ni flicage, et ce qui participe d'une gratuité d'émancipation, celle de l'école publique, celle du principe de la sécurité sociale, telle que prévue dans le programme du Conseil national de la résistance, le CNR. Et il propose de rompre définitivement avec toute écologie culpabilisatrice. Émancipatrice, la gratuité constitue un hymne au plus à jouir. On peut formuler 1000 reproches à la société de consommation. Elle parvient toutefois à séduire en invitant à consommer toujours plus. Rompre avec cette jouissance de l'avoir implique de lui en opposer une autre, la jouissance de l'être. Vers une civilisation de la gratuité, donc, qui vient de paraître... Gratuité versus capitalisme, donc, qui a été salué par toute la gauche, en particulier écologiste. Voilà. voir alors ce revenu universel. Comment est-ce qu'on peut le définir? Définir ce revenu, comment et pour qui? Est-ce que ce revenu va être égal pour chacun? Ou est-ce qu'il va être défini au cas par cas? Et selon quels critères? Là, c'est très, très compliqué. Hein, selon l'âge, selon la composition de la famille, selon les lieux de résidence, c'est très compliqué. Et puis, il faudrait aussi définir s'il y a revenu universel, c'est pour satisfaire les besoins. Ah oui, mais quels sont les besoins? Et est-ce que les besoins de tous sont les mêmes? Si le revenu égalitaire est censé pourvoir à tous les besoins, chacun fera ses choix personnels, qui finiront par devenir des facteurs d'inégalité, si ces choix ne sont pas équilibrés. Je connais aussi quelqu'un qui avait rêvé toute sa vie de rouler en Mercedes et qui a acheté une vieille rogne de la marque en question, dans laquelle il a englouti en réparation toute sa retraite pour finir dans l'indigence et dans sa Mercedes. Alors, la définition des besoins, eh bien, c'est pas évident du tout. C'est peut-être pour ça que le plus simple, ça serait de fournir gratuitement la satisfaction des besoins fondamentaux et même de quelques autres. Alors maintenant, cette gratuité, on peut protester parce que ça pourrait conduire à une certaine uniformisation des besoins et de leur satisfaction matérielle, par simplification et par économie universelle, du genre de ce qui s'est passé dans la Chine de Mao. Hein, tout le monde habillé pareil, la chemise bien connue, la chemise Mao, etc. Et bon. Voilà, tout le monde habillé pareil, tous les logements pareils, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome des séances de psychanalyse, c'est-à-dire que ça ne marche que si on paye. On peut aussi redouter que un certain public pense, tienne ce raisonnement-là. Maintenant, il y a, c'est sûr, un gros risque de gaspillage par négligence des biens qu'on aurait ainsi acquis gratuitement et dont on ne percevra plus l'importance à cause du préjugé du « si on le donne, c'est que ça vaut rien ». Ah oui, vous croyez, vous êtes sûr? Eh bien, allez donc chercher votre eau, vous-même, dans la nature. Vous verrez comme c'est simple.
Oh.
Alors maintenant, ce qui peut être positif dans cette notion de gratuité des biens et services les plus importants. Alors, la gratuité va entraîner automatiquement une économie circulaire et donc écologiste, écologique et écologiste. Ça sera une économie de récupération, une économie d'entraide. Vous avez probablement entendu parler, enfin on avait fait des émissions à ce sujet il y a quelques années, sur ce qu'on appelle les SEL, les services d'échange libre, je ne sais plus ce que veut dire le L. Voilà, services d'échange en liberté, enfin quelque chose comme ça. Ça existe sur Toulouse, si vous le demandez ça encore une fois à votre moteur de recherche préféré, vous aurez des adresses et vous aurez des témoignages, des exemples. Ça marche très bien, ça marche très bien. Donc, prodiguer un service, donner quelque chose, évidemment gratuitement, ça change énormément les relations entre les gens. Donc, il y a ce service SEL, S-E-L, donc service d'échange. Ça existe sur Toulouse et sa région. Alors, ce système de gratuité est applicable dans tous les domaines, comme l'a dit Paul Ariès, je peux vous le relire, il partait bien entendu de l'eau et de l'alimentation, et puis il passait par les parcs et les jardins publics, les médiathèques, etc., etc. Maintenant, la gratuité, bien loin de supposer et d'entraîner le gaspillage, entraîne au contraire la sobriété, à condition d'être bien organisée. C'est-à-dire que la gratuité ne sera pas totale, mais presque. Comment ? Eh bien, en instituant des seuils de gratuité selon les quantités consommées. Ça existe déjà pour l'eau. Enfin, sur Toulouse, je ne sais pas, mais dans la banlieue sud, vous avez un forfait pour 10 mètres cubes de consommation sur 6 mois. Et le forfait est tout à fait modique, et c'est seulement au-delà de 10 mètres cubes que ça commence à chiffrer. Enfin, disons que ça coûte un peu plus cher, voilà. Maintenant, la gratuité améliore aussi les relations et lutte contre les incivilités qui expriment souvent, comme je le disais tout à l'heure, qui expriment souvent le refus des structures du capitalisme et de son prix. Mais, la gratuité ne signifie pas génération spontanée des biens et services nécessaires. Hein, oui, Paul Ariès nous le rappelait. Si l'école est gratuite, c'est parce qu'elle est financée par les impôts. Et les impôts, d'où ils sortent ? Ben, des prélèvements sur les richesses produites, bien sûr. Il faudra donc pourtant les créer, ces biens et services nécessaires.
C'est-à-dire travailler.
Et comme l'esclavage est aboli, il va falloir s'y mettre quand même. Alors comment ça ? On va y réfléchir après ça.
Thank you.
Eh ben, va bien falloir travailler quand même, hein. Mais qu'est-ce que c'est travailler? Travailler, est-ce que c'est s'astreindre à des tâches pénibles, dangereuses, mais indispensables pour la société, pour survivre? Ramasser les poubelles, faire le tri du recyclage, entretenir les égouts ou les voies de circulation? Eh ben, si c'est ça, évidemment, dans ce cas-là, ce sont des tâches où on trouve beaucoup d'accidents du travail. Et pourtant, la vie simple aux travaux, ennuyeuse et facile, est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour, disait Verlaine, que je vous rappelle de temps en temps parce que j'aime bien cette citation. Oui, c'est une œuvre qui veut beaucoup d'amour, je dirais qui veut le sens, qui veut nourrir le sens de la solidarité. Voilà, c'est surtout ça. Ça revient au même, hein. La solidarité, c'est de l'amour. Alors, est-ce que travailler, c'est s'acquitter de ces tâches pénibles, dangereuses, etc. ou est-ce que ça peut être des créations personnelles ou collectives auxquelles on participe par goût, ce qui résoudrait le problème des retraites? Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain Charles Aznavour qui n'a pas pris sa retraite et qui est presque mort en scène. Myriam Makeba est morte dans les mêmes circonstances, même un peu plus, je dirais, spectaculaire, si on peut dire, puisqu'elle est morte dans sa loge en participant à un gala de soutien à des ouvriers licenciés en Italie. Les artistes sont passionnés par la création et ne prennent pas de retraite, ou très tard. Donc, on a des exemples très récents de ceux qui meurent sur scène ou presque, mais depuis Molière, on sait que c'est le lot des artistes. Pourquoi donc? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas l'impression de travailler, ce qui ne les empêche pas d'être très exigeants, d'être très perfectionniste, de passer des 10 heures et des 15 heures ou plus par jour à fignoler leur œuvre. Mais pour eux, ce n'est pas du travail, c'est leur vie, ça leur est aussi nécessaire que de s'alimenter. Et quelquefois, ils s'alimentent très mal parce que leur œuvre ne les nourrit pas, si on peut s'exprimer de cette façon. Je crois que je vous parlais, quand je vous parlais de l'art et des artistes dans une émission qui devait s'appeler « Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous à vouloir être artistes ?» On peut se révéler un artiste et s'exprimer en tant qu'artiste dans énormément de domaines, hein, pas seulement la sculpture, la peinture et le cinéma, hein. On peut être un artiste en cuisine, en couture, en architecture, en médecine, en kinésithérapie, en coiffure, en enseignement, dans tous les spectacles et dans tous les arts traditionnels. Et tous ces artistes-là vont se résigner à la retraite extrêmement tard. Et souvent, d'ailleurs, ils continueront à créer quand ils ne monteront plus sur scène. Pour ceux qui font du spectacle vivant, eh ben, ils vont se mettre à écrire leurs mémoires et à nous faire partager leur bonheur et leurs recettes. Voilà. Oui, d'accord. Pour ce qui est de l'art, tout le monde est d'accord pour travailler au niveau artistique. Hein. Bon. Mais, il va quand même falloir s'occuper des routes, des égouts et des poubelles. Ah ben oui. Et éventuellement, pire encore. Eh bien, ce qui reste, ce boulot qui va rester, il pourrait peut-être être assuré par chacun à tour de rôle, comme une espèce de service civil. Du temps de mes jeunes années, quand existait encore le service militaire, il y avait Pierre Cérézol qui avait créé le service civil volontaire pour démontrer que l'on pouvait assumer ces tâches lourdes, difficiles, voire dangereuses, dans un esprit de solidarité, de fraternité et avec bonheur. Et il y avait des services civils, des chantiers surtout fréquentés par des jeunes pendant les vacances d'été, bien sûr, mais il y en avait aussi toute l'année pour ceux qui étaient à la retraite et qui voulaient encore participer à l'œuvre collective. Alors, recourir à ce service civil sous cette forme-là, ça rendrait sa noblesse à tout travail et ça éviterait le ridicule aux intellectuels distingués, du genre de ceux que Fidel Castro mettait en boîte en leur demandant de remonter tout simplement une épingle à linge qu'il leur présentait en trois pièces détachées. Et je vous dis pas les rigolades. Les biens et services gratuits seraient en fait échangés, troqués selon les besoins, ce qui amènerait à une sobriété sans uniformité à la Mao. Hein, ça n'empêcherait personne d'avoir une chemise originale, un manteau surprenant et un sac rigolo. Voilà. Maintenant, on peut dire que je fabule, que je rêve, que je suis une vieille gaga. Bon, ça d'accord, c'est un fait. Mais figurez-vous que il serait salubre, il serait très sain, il serait, je dirais pas moral, mais dans les luttes, par exemple, comme celle du féminisme, ce serait très démonstratif que tout le monde se colte avec les difficultés matérielles des travaux réputés difficiles. Je ne sais pas si vous avez jamais fait du carrelage ou de la plomberie, si vous êtes jamais monté sur un toit pour faire ce qu'on appelle le remaniement, hein, changer les tuiles, etc., les retourner, enfin bon. Si vous avez posé des prises électriques ou des interrupteurs, ça les interrupteurs c'est dur, hein, mais bon. Eh bien figurez-vous que tout le monde peut faire ça, même les mémés qui vous causent, eh oui. Moi, je me suis dit que j'étais pas plus bête qu'un mec. J'ai pris 2-3 bouquins, j'ai potassé. Bon, j'ai commencé par me brûler, par faire des murs qui n'étaient pas droits. Puis après, j'ai appris à quoi ça servait un fil à plomb. J'ai appris aussi à quoi ça servait un coupe-tube. Ouais. Ben, vous pouvez chercher ce que c'est qu'un coupe-tube. C'est un truc tout bête que j'avais renoncer à acheter parce que j'étais persuadée, étant donné le service que ça rendait, j'étais persuadée que ça devait coûter très cher. Non, ça ne coûte pas cher du tout. Ça permet simplement de faire un travail propre et qui fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut s'y mettre. Il ne s'agit pas de réserver des tâches lourdes forcément à des hommes ou à des gens jeunes ou à ceux qui ont envie de s'amuser à faire des expériences. Non, tout le monde peut s'y mettre. Et c'est très gratifiant. On peut se prouver qu'on est bon à beaucoup de choses. Ça rend indépendant. Et puis, ça rend aussi modeste. Et ça permet une ouverture sur les autres. C'est-à-dire qu'un télo ou pas, quand vous savez vous servir d'un fer à souder ou d'une carrelette ou poser des prises électriques, etc., quand vous savez faire ça, vous avez un regard tout à fait différent envers ceux dont c'est la spécialité. Et ça remet beaucoup de pendules à l'heure.
Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil. La plus onéreuse, c'est le coup de canon. Ça demande une équipe entraînée au bruit. Il y a toujours la corde dite pendaison. Pour le nœud coulant, faut avoir le don. Sûr que la noyade attire les moroses, mais pas garanti parce que l'eau réveille. Y a le bon vieux poison, mais là faut la dose. Pas assez tu dors, un peu trop tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaire, mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. Le rasoir, ma foi, cette saloperie, oh, c'est fanatique parce que c'est tranchant. La hache, le couteau et la scie aussi, mais c'est un domaine bourré d'accidents. Très peu efficace est la collision, ça brise une face, laisse des lésions. Soif, faut la volonté, le dégoût de Léo, surtout la santé. Non, vraiment, j'y tiens. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire, la plus achalandée, c'est difficile à dire. Les deux finissent en spasme, en soubresaut ou en transe, mais les deux sont jolis. Le rire toujours comique et l'autre romantique. La chaise électrique, c'est très indécent. Sauter dans le vide, pas toujours prudent. Étrangler quelqu'un, c'est perdre ses sens. Le trancher, c'est pire, c'est les sens dessous. Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Et puis c'est gai dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
Je suis peut-être une dangereuse rêveuse, mais je crois que l'être humain a des neurones pour la créativité, et que s'il ne crée pas d'une façon ou d'une autre, individuelle ou en collectivité, il s'étiole et se dénature. J'en suis tout à fait sûre de ça. Mais c'est peut-être une réflexion personnelle. Je crois que l'être humain est un animal social. Travailler, c'est donner aux autres et recevoir des autres. Je crois que c'est une nécessité sociale et relationnelle, sinon même affective. Parce que nos amis, vos amis, vous les avez rencontrés où ? À l'école, peut-être, où c'est déjà un travail ? Ou dans vos premiers emplois ? Maintenant, ce travail supprimerait probablement, ce travail choisi, supprimerait probablement les hiérarchies du travail. Il n'y aurait plus besoin de chef, mais seulement de pédagogue, de moniteur. Quand on participe à une œuvre et non pas à un boulot, que cette œuvre soit une construction, un repas de collectivité ou un tableau. Quand on participe à une œuvre avec un gros « e » dans l'eau, eh ben on crée. Et on y va volontairement. et avec satisfaction. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre indulgence parce que ces lectures économiques sont un peu ardues quelquefois et je pense que j'ai pas joué avec assez de dynamisme le rôle de l'écono de service. Voilà, merci de votre indulgence donc, merci de votre écoute.